France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ce qu'on constate, c'est qu'on a des dispositifs qui sont davantage des dispositifs de tri, où tout le monde est pris en charge dans un premier temps, et très vite, y a des bons et des mauvais, des personnes qu'on peut garder et d'autres qu'on remet à la rue.
Anne Hidalgo a annoncé la création d'un centre humanitaire d'accueil, mais évidemment à la périphérie. Et là, le message était assez clair. On voulait les sortir de la ville.
Il est évident que, compte tenu des projets qu'il y a en prévision des Jeux Olympiques, ce nord-est parisien va être transformé. Donc ces gens vont être repoussés un peu plus loin.
Paris se qualifie de ville-refuge. Comme Barcelone, Palerme et Lampedusa, la capitale française affiche sa volonté d'offrir un accueil digne à tous les exilés, quel que soit leur statut. Pourtant, le mois dernier, les associations s'inquiétaient encore du nombre record de migrants vivant à la rue dans Paris. France Terre d'Asile évoquait 2500 personnes installées dans des campements de fortune au nord de la capitale. Depuis, une nouvelle évacuation a eu lieu le 7 novembre. Le ministre de l'Intérieur a alors déclaré « On a une volonté forte de mettre à l'abri et de mieux accompagner celles et ceux qui sont en demande d'asile. L'essentiel pour nous, ajoutait Christophe Castaner, est de faire en sorte que les sites ne se reforment pas. » Avec cette opération, confirmait la préfecture de police, on a un objectif de zéro retour. Selon un document de la mairie de Paris que France Culture a pu se procurer, 53 118 personnes ont été évacuées des campements parisiens depuis juin 2015. Mais dans ce chiffre, on ne sait pas combien d'exilés ont été comptés plusieurs fois, car évacués puis remis à la rue à plusieurs reprises. Sur 4 ans, on comptabilise donc plus de 270 évacuations et mises à l'abri, la dernière hier, dans Paris Intramuros. Le problème est-il réellement en passe d'être réglé ? Exilé à Paris, 4 ans de crise de l'accueil, c'est un reportage signé Raphaël Kraft. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Dominique Versigny. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire adjointe de Paris, chargée des solidarités, de la lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés et de la protection de l'enfance. Nous allons écouter ensemble le reportage de Raphaël Kraft et vous pourrez bien sûr ensuite le commenter et le compléter. Raphaël, pour bien nous faire comprendre la problématique, vous allez nous faire revenir 4 ans en arrière.
Oui, c'est un retour non exhaustif sur ces 4 années parce que cette histoire reste à écrire. On peut déjà retenir que c'est une crise humanitaire majeure qui est sans précédent dans Paris Intramuros et dont on peine à prendre la mesure tant elle est noyée dans ce qui est devenu une routine pour celles et ceux qui tentent de l'enrayer, une routine pour les observateurs et notamment nous autres, les journalistes, une crise humanitaire qui est érigée en véritable politique de maltraitance par les gouvernements de droite comme de gauche qui se succèdent depuis 2015, une fabrique de la folie pour les personnes qui la subissent. C'est un cycle infernal, comme le titrait Mediapart ce matin, un cycle qui ne mène nulle part, selon les spécialistes de l'exil. C'est enfin un événement où le gouffre est béant entre la communication institutionnelle sur le sujet et la réalité de la violence subie sur le terrain de ces camps d'infortune.
La semaine dernière, vous étiez porte d'Aubervilliers, Raphaël, pour suivre une mise à l'abri qui a finalement avorté. C'est le début de votre reportage.
Jeudi 21 novembre, porte d'Aubervilliers.
Gamarran.
Nouvelle évacuation.
Les effectifs s'en vont, parce qu'il n'y a pas de police, donc le maintien de l'ordre ne nous appartient pas à nous. Hein. Voilà. Bon. Donc, faut se retirer en bon ordre.
Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de participation de la préfecture de police, donc il n'y a pas de conditions de sécurité suffisantes pour que l'opération puisse se faire. Donc il y a un bus qui a été pris d'assaut par les hommes isolés. Dans ces conditions-là, on arrête. Il n'y a rien qui se passe.
Donc ça veut dire que toutes les familles sont sur le carreau, là.
Oui. Oui, ça veut dire que il y a tous ces gens-là qui sont donc je sais pas, on m'a dit qu'il y avait 400 ou 500 hommes.
Ouais.
Et là on avait bien 120 personnes en famille, facile. Hein. Voilà. C'est dommage parce qu'on avait des places d'hébergement.
Et
donc,
comment vous expliquez ça, Dominique Bordin, que la préfecture de police ne souhaite pas mettre.
On ne sait pas. Hein. On ne sait pas parce que on n'est pas associé aux réunions de préparation, s'il y en a. En tout cas, on ne le sait pas. Hein. Nous, on travaille avec la préfecture de région autour des familles et des publics vulnérables parce qu'une partie sont de la compétence sociale, relève de la compétence sociale de la ville. Et donc nous, on participe, mais le dispositif de maintien de l'ordre, etc., et de gestion de la circulation, tout ça ne nous appartient pas. Donc si le dispositif de sécurité n'est pas réuni, et ben voilà, on en prend acte. Mais bon, nos collègues de la préfecture de région se retirent aussi, hein, pour les mêmes raisons.
Comment peut-il y avoir des différends entre la préfecture de région et la préfecture de police de Paris?
c'est la question. C'est la question à 10 euros, à 100 euros, je ne sais pas. Ça échappe à notre compréhension. Hein, donc je ne sais pas quoi vous dire.
Pour plaisir.
Hein, vous appelez quand vous voulez. Hein.
Merci.
Ça va être catastrophique là, enfin ça peut être catastrophique, oui. Ces gens qui sont, oui, dans le froid, qui s'attendent, ces gens et beaucoup de, oui, femmes et d'enfants, oui, qui sont dans le froid, qui s'attendent à monter dans des bus et qui vont finalement pas le faire.
Oui, complètement, Ravel, complètement. Ben, ça montre qu'il y a bien la nécessité de soit d'une grande évacuation, c'est-à-dire de reproduire l'expérience de la chapelle, mais sur la porte d'Aubervilliers, parce qu'en réalité... En termes de personnes à la rue, le vrai enjeu, il est ici, sur la porte d'Aubervilliers, puisque en termes de nombre, on était déjà bien au-delà de la porte de la chapelle et on est autour de 2000 personnes, donc ici. Donc à partir de là, il y a une question qui se pose à l'État, est-ce qu'ils veulent évacuer tout ou pas? Ou alors est-ce qu'ils veulent procéder, comme c'était prévu ce matin, à une opération de mise à l'abri, mais avec une certaine ampleur, parce qu'il y avait quand même plusieurs centaines de places d'hébergement mobilisées, et se donner les moyens de mener à bien ces opérations de façon hebdomadaire s'ils le veulent. Enfin voilà, nous l'important pour nous, c'est de sortir le maximum de personnes de la rue. On est en rentrée en période hivernale, ils annoncent des températures négatives pour la première semaine de décembre. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est venu, hein, participer à cette opération, parce que nous, on attendait plutôt une grande évacuation, hein, générale, et une mise à l'abri de tout le monde. Mais bon, à défaut, on est venu participer en se disant que, ben voilà, si on arrivait à mettre à l'abri aujourd'hui 600 ou 700 personnes, comme on pensait pouvoir le faire, ça serait toujours ça de prix. Voilà, donc la situation va continuer à se dégrader, d'un point de vue humanitaire, déjà pour les gens, et puis... dans les conditions matérielles qui sont les leurs, dans la boue, dans le froid, et voilà.
Hein.
Bonjour.
Bonjour, ça va?
Oui, vous?
Des familles, non?
Alors, selon les informations que j'ai, oui, l'opération a été annulée.
Mais comment ça? On n'arrive pas à dormir, ça fait je ne sais pas combien de jours, on aime rire. Même les enfants, ils sont malades ou quoi? On fait quoi? Ils fonctionnent comment, les politiques françaises? Même nous, on est réfugiés ici, on n'arrive pas à dormir, on n'a rien de logement. C'est merde, là.
Vous avez le statut de réfugié, vous?
Oui, bien sûr. J'ai un statut de réfugié, j'ai tout. Je travaille, j'ai un fiche de pays, tout. J'arrive pas. J'ai pas de logement.
Vous venez d'où?
Je viens du Soudan.
D'accord. Vous dormez ici, sur le camp?
Oui, je dors ici avec les gens, regarde. Tout ça, moi, les affaires.
2 semaines plus tôt, le 7 novembre, 1628 personnes exilées avaient été évacuées de leur campement à la porte de la chapelle et sur l'avenue du président Wilson à Saint-Denis.
Non, mais pourquoi on ne peut pas récupérer les tentes, monsieur? Il y a eu des centaines de milliers de tentes qui ont été jetées, en fait, depuis 4 ans. C'est un problème. Il y a des gens qui dorment dehors et il pleut, il fait froid. Pourquoi on ne peut pas récupérer les tentes? Pourquoi on ne peut pas récupérer le matériel, monsieur? Je suis une habitante du quartier et voilà, on est là depuis longtemps pour s'occuper de ce qui se passe dans notre quartier, des gens. Et voilà, comme je le disais à l'instant, depuis 4 ans, il y a eu quelques centaines de milliers de tentes et de couvertures qui ont été jetées, qui ont été rachetées en permanence par des gens et jetées. Depuis 4h30 du matin, il y a des gens qui ont ramassé des tentes pour pouvoir les récupérer, pour qu'elles puissent servir à ces si nombreuses personnes qui sont à la rue en France. Et le matériel a été stocké, la police a dit « il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre là ». Et puis après, ils ont tout pris, ils ont tout jeté à la benne.
Ce fut la 59e évacuation du genre depuis le 2 juin 2015, date à laquelle les officiels ont commencé cette comptabilité dans Paris Intramuros. On distingue une évacuation d'une mise à l'abri lorsque l'on interdit la réinstallation des personnes sur le lieu où ils se trouvaient. Il y a eu 212 mises à l'abri depuis cette même date. Selon ce document de la mairie de Paris que nous avons pu nous procurer, cela représente en tout la prise en charge de plus de 53 000 personnes, sans toutefois tenir compte des nombreux exilés évacués à plusieurs reprises, pour ne s'être vu proposer qu'un hébergement de quelques jours, ou l'avoir quitté faute de nourriture ou d'assistance sociale, juridique, voire médicale. Louis Barda, coordinateur général de Médecins du Monde à Paris.
Ces chiffres, ils évoquent dans un premier temps pour nous une forme de crise de l'accueil, parce que s'il y a eu besoin d'autant d'évacuations ou de mise à l'abri, quel que soit le lexique retenu, c'est qu'il n'y a pas eu de dispositif d'accueil en amont qui ont permis de prendre en charge les personnes, qu'on les a laissées à la rue pendant une durée parfois de quelques jours, mais souvent de plusieurs mois, dans des conditions extrêmement compliquées et indignes. Et ensuite, ce chiffre de 50 000 qui paraît très important, il faudrait arriver à le décortiquer pour comprendre combien de personnes sont passées plusieurs fois dans le circuit, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qu'on rencontre qui ont été de toutes les évacuations ou presque à Paris et qui à chaque fois ont été remis à la rue faute de dispositifs pouvant les accueillir.
C'est-à-dire comment est-on remis à la rue lorsque la mairie de Paris et l'État communiquent sur des hébergements dits durables ?
Voilà, le dit durable, c'est une vraie question. L'inconditionnalité, c'est aussi une demande qu'on a, nous, c'est-à-dire de permettre à toutes les personnes, quelle que soit leur situation administrative et leurs origines, d'être mises à l'abri et protégées, puisque c'est leur demande, c'est un droit. Ce qu'on constate, au contraire, c'est qu'on a des dispositifs qui sont davantage des dispositifs de tri, où tout le monde est pris en charge dans un premier temps, et très vite, selon la situation administrative des personnes, il y a des bons et des mauvais, des personnes qu'on peut garder et d'autres qu'on remet à la rue. Et du coup, si on est dubliné, si on est débouté, si on est sans papier, on ne rentre pas dans ces dispositifs et on se retrouve à devoir retrouver une tente, un duvet, un lieu de campement et attendre la prochaine évacuation et ce cycle qui dure depuis 4 ans.
Je pense que ce n'est pas un sujet de volume.
Bruno Morel, PDG d'Emmaüs Solidarité.
On parle beaucoup de crise des migrants. Moi, j'ai toujours penser que notre pays est en capacité d'accueillir dignement des personnes exilées. Simplement, effectivement, c'était l'effet de cette répétition d'évacuation, puisque vous remontez à 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une tentative ce matin. Et vraiment, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ne soit pas en capacité de se mettre tous les acteurs, État, collectivités concernées, associations autour de la table, pour essayer de voir comment on règle un problème qui, somme toute, devrait pouvoir être réglé sans difficulté majeure.
Crise humanitaire, on parle de près de 53 000 personnes évacuées en 4 ans sur près de 300 évacuations, c'est considérable.
Oui, c'est considérable. Ceci étant dit, il y a eu des tentatives d'accueillir un peu mieux. Si on refait l'histoire, vous parlez des évacuations, la première évacuation du 2 juin 2015, évacuation ratée au sens de la qualité de l'évacuation, puisque en fait ça a été des orientations, on savait pas où, dans des lieux improbables et une nuit. Et puis après, on avait réussi à construire des dispositifs. D'opération en opération, on a créé les centres d'hébergement d'urgence migrants. On a créé certains dispositifs, alors notamment celui de la Chapelle, enfin la bulle de la Chapelle, mais pas que. Et moi, j'ai un peu l'impression, depuis plusieurs mois, d'un retour en arrière, ne serait-ce que sur les opérations de mise à l'abri. Il faut bien faire comprendre à l'heure actuelle à l'État qu'on attend de la mise à l'abri inconditionnelle, de qualité, avec de l'accompagnement.
Ils ont tous eu une place à Nanterre. Moi, je ne peux pas. Je suis.
L'évacuation du 2 juin 2015 de 400 personnes, demandeuses d'asile pour la plupart, majoritairement soudanaises et érythréennes, allait préfigurer à quelques détails et nuances près la façon dont allaient se dérouler les 271 suivantes. Au lendemain de l'évacuation, le 3 juin, 70 exilés sont sur le carreau pour n'avoir pas pu monter dans les bus ou avoir été expulsés ou être partis du logement qu'on leur avait assigné la veille au soir. Déjà présente sur cette première évacuation en sa qualité d'opératrice de l'État et de la mairie de Paris, L'association Emmaüs Solidarité, en la personne d'Aurélie Elassac Marzorati, sa directrice générale adjointe, tente de se faire entendre par des militants et habitants du quartier choqués de voir les réfugiés toujours à la rue.
On leur propose d'être aujourd'hui dans une solution d'hébergement d'urgence, mais vous proposez qu'ils préféraient qu'ils soient dans la rue.
C'est très bien ce que c'est, Nanterre et la boulangerie. Ils se font pisser dans leurs godasses, ils se font voler leurs affaires, ils en ont déjà plus. Alors, on peut dire que c'est des conditions de mise à l'abri pour la nuit, mais à 6 heures, tu sais très bien qu'ils vont être jerkés dehors. C'est une réalité. C'est une réalité. Ils vont s'endormir, il sera 2 heures du mat. Mais c'est une réalité. Je l'ai visité, moi, ce truc, merde. J'ai des gens qui ne veulent plus y aller.
Est-ce qu'aujourd'hui.
Avec le poids de votre association, vous avez le moyen de mettre la pression autrement que d'obtenir 20 places dans un centre d'hébergement à Nanterre, tout pourri et tout ça, quoi.
La solidarité travaille pour que les personnes qui sont ici vivent dans des conditions dignes, monsieur. Vous étiez où, monsieur, depuis 9 mois? Vous étiez où, monsieur, depuis 9 mois? Moi j'ai mes. Vous avez vu comment.
Et vous êtes qui?
Je suis prise en otage, messieurs, dames. Je suis prise en otage.
Partez alors.
Je propose des solutions dignes à ces personnes pour que ce soit.
15 personnes.
Alors je vous dis
15 personnes, c'est ton travail. C'est ton travail.
Après avoir occupé et dormi à la salle Saint-Bruno dans le quartier de la Goutte d'Or la nuit du 4 juin, faute de tente jetée à la benne à ordures, les exilés dorment à la Belle Étoile sur le parvis de l'église Saint-Bernard. Face au risque que la très symbolique église Saint-Bernard soit de nouveau occupée près de 20 ans après sa tragique évacuation en août 1996, la gendarmerie mobile évacue le parvis. Ils ne sont plus 70, mais plus de 120 à ne plus être hébergés. Les demandeurs d'asile sont encerclés et emmenés jusqu'au métro La Chapelle. Les gendarmes les font monter sur le quai du métro et à la stupéfaction des quelques observateurs présents, les poussent de force dans les rames de métro qui se succèdent toutes les deux minutes à l'heure de pointe. L'élu vert et conseiller de Paris Pascal Julien était présent sur le quai.
Ils sont contraints de monter dans les rames de métro, sans encadrement, ils font ce qu'ils veulent après. Grosso modo, c'est... On leur donne un coup de pied dans le cul et on leur dit partez. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on traite les réfugiés qui arrivent sur le littoral grec et italien quand ils échouent sur le trottoir parisien. Voilà, alors je me marre parce que les politiques qui pleurent des larmes de crocodile sur ce qui se passe sur le rivage de la Méditerranée, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien voilà, à quoi vous assistez, c'est-à-dire une expulsion brutale, illégitime, de gens parfaitement pacifiques, on le voit d'ailleurs. Hein. Et quand j'ai dit à la police que j'observais que l'expulsion était ferme, mais que c'est vrai que je n'avais pas encore vu de violence, et que c'était un comportement professionnel, il m'a répondu « tant qu'on ne nous tape pas dessus ». Voilà. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas la police, c'est l'ordre qui a été donné à la police. La police fait bien son travail, le problème c'est l'ordre qui a été donné. C'est donc un problème politique, c'est pas pour l'instant un problème technique.
La visibilité des exilés dans la ville, l'émoi suscité par leurs conditions d'existence dans la rue, l'attitude des forces de l'ordre à leur endroit va mobiliser des centaines de Parisiennes et de Parisiens, et cela bien au-delà des traditionnels milieux militants et associatifs. Ce fut le cas par exemple de Chloé Gerber-Cahuzac, aujourd'hui membre active de l'association Paris d'Exil et autrice du film En territoire hostile qui retrace le destin des exilés dans les rues de Paris de 2016 à 2018.
En fait, je crois que je fais partie de ces citoyens qui n'étaient pas au courant avant de ce qui se passait. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une crise migratoire, mais je pense qu'il y a eu une crise de l'accueil qui s'est soudain rendue extrêmement visible en 2015 avec l'apparition de campements. Et que le fait que ça arrive devant nous, dans nos rues, et qu'on se sente soudain les seuls à devoir prendre en charge ça parce qu'aucune association mandatée par l'État ne le faisait ou parce que l'État ne faisait rien, qui a été une prise de conscience.
Comment vous avez vu les choses évoluer de 2015 jusqu'à 2019?
En fait, elles ont d'abord évolué de 2015 à 2016. C'est surtout ça qui a été l'élément marqueur. Puisqu'en fait, dans la première période, tous les campements étaient situés au cœur des quartiers pauvres de la ville. Voilà, assez rapidement, ça s'est passé entre Stalingrad, Jaurès, La Chapelle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'ils ont commencé à préparer l'évacuation de Calais, d'un côté. Et de l'autre côté aussi, ils ont commencé du coup à sévir à Paris. Et je me souviens de la première occurrence, puisque c'était en juillet 2016. Il y avait eu une évacuation, des gens avaient été laissés sur le carreau. Et comme d'habitude, ils n'avaient pas pu monter dans les bus, il n'y avait pas de place, ils étaient arrivés en retard, enfin un truc comme ça. Et un groupe décide de les emmener au but de Chaumont pour le goûter. Et le commissaire arrive tout de suite et dit « On vous a vu sur les caméras, vous ne mangerez pas ici, vous sortez ». Et on se retrouve encerclés et on nous dit « Vous devez vous séparer par petits groupes ». C'était fin juillet, puis après il y a eu la charge du 30 juillet, où vraiment là on a dit aux gens, le message était clair, il fallait qu'ils se séparent en petits groupes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient encore exister, mais il fallait qu'ils soient par groupe de 2 ou 3, il ne fallait pas qu'ils soient par groupe de 400 ou 500 en fait. Hein, puisqu'un campement ça peut aller de 300 à 3000, ça dépend. Donc là ils ont commencé à essayer de séparer les gens. Qui évidemment ne voulaient pas se séparer, puisque le but c'était de rester ensemble pour être solidaires, et puis pour que les solidaires sachent où les trouver aussi, donc que les distributions de nourriture arrivent, pour qu'ils puissent demander de l'aide pour les soins médicaux, etc. Et donc là, progressivement, juillet, août, septembre, on a eu de cesse que de les pourchasser dans la ville, pour en fait qu'ils comprennent qu'ils étaient indésirables et qu'ils ne pouvaient pas poser leur tente là. Et en parallèle, Anne Hidalgo a annoncé la création d'un centre humanitaire d'accueil, disant qu'elle allait prendre finalement les devants sur un État qui, lui, ne faisait pas son travail. Et elle a ouvert un centre, mais évidemment à la périphérie, porte de la Chapelle. Et là, le message était assez clair, on voulait les sortir de la ville. Et donc ce centre a en effet pris place sous la forme d'une bulle. Et c'est Emmaüs qui a été mandaté pour s'en occuper à l'intérieur. Centre de premier accueil, mais qui évidemment a vite été submergé. Et donc les gens ont commencé à faire la queue devant, comme ils faisaient la queue devant la PADA, devant tous les centres finalement pour pouvoir demander l'asile ou s'inscrire ou être hébergé, faire la queue comme d'habitude. Voilà, ils ont commencé à faire la queue là-bas.
La fermeture de la frontière franco-italienne à Menton le 17 juin 2015, d'où proviennent alors la majorité des exilés, ne résout rien. Ils sont plus de 21 000 à avoir déjà été évacués dans Paris depuis juin 2015, lorsque la bulle humanitaire est ouverte le 10 novembre 2016. À l'initiative de la mairie de Paris, ce centre de premier accueil et d'orientation est censé répondre à la crise de l'accueil que connaît la capitale. Sous-dimensionné, il ne peut accueillir que 400 personnes, il devient vite un point de fixation, selon la terminologie des autorités, devant lequel campent toujours plus d'exilés. Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile.
Des premières évacuations de juin 2015 jusqu'à l'évacuation de Calais en octobre 2016, que pour ma part j'ai soutenu. À partir de là, les choses ont changé parce que, y compris, il y a eu des crispations autour du sort à réserver aux personnes dublinées. Parce qu'on commençait à avoir ces fameuses migrations de rebond intra-européennes qui arrivaient sur territoires qui voulaient aller en Grande-Bretagne, etc. Et le blocage, évidemment, que constitue ce règlement. Et donc, la négociation entre les différentes parties, pour ce qui concerne Paris, la ville, la préfecture de région, la préfecture de police et les organisations humanitaires ont commencé à se tendre. Parce que un certain nombre d'acteurs ont toujours contesté le traitement par les services de l'État des Dublinais. Voilà, c'est... Mais évidemment, oui, bien sûr, toujours. Et on a vu apparaître des initiatives... comme celle, par exemple, de la bulle à la porte de la Chapelle, un lieu qui avait une capacité d'accueil de 400 personnes et qui a agrégé un certain nombre de polémiques autour de sa création. Moi, j'avais dit la chose suivante. J'ai dit, mais bien sûr que je soutiens la création de cette bulle humanitaire, de ce lieu d'accueil, mais nous courons à l'échec si ce type d'initiative n'est pas reproduit au même moment dans un certain nombre de villes, s'il n'y a pas une cohérence sur le dispositif. Parce que, en réalité, les gens sont pas idiots. Si vous avez un lieu d'accueil dans un seul endroit du territoire, que ça n'existe pas ailleurs, ben, les gens vont venir plutôt vers ce lieu d'accueil. Voilà. Et je pense que la mairie de Paris a eu raison de le faire, de tenter cette expérience, mais que, évidemment, elle était amenée à connaître de grandes difficultés parce que elle n'était pas reproduite ailleurs. Et, en réalité, nous pouvons déployer sur l'ensemble du territoire national des capacités d'hébergement de qualité, en nombre suffisant dans toutes les grandes capitales régionales. Nous pouvons le faire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la situation que vous trouvez à Paris, vous la trouvez dans un certain nombre de grandes villes. Donc, et de grandes ou de moyennes villes, avec des campements de plus ou moins grande importance, à la rue ou dans des squats. Moi, je suis très critique de la politique publique suivie depuis 2015. Je pense que ça correspond en réalité à une espèce de scénario qui s'est mis dans les têtes et qui est assez bien partagé dans l'Union, qui est dans l'Union européenne, chez les décideurs, qui est un scénario en réalité de dissuasion maltraitance, comme si le fait de maintenir les gens dans la précarité pouvait les dissuader et les détourner de notre territoire. Ça, c'est de la folie totale. C'est d'ailleurs une fabrique de la folie. C'est pas acceptable.
La mairie de Paris et Emmaüs Solidarité se félicitent de l'efficacité de cette bulle humanitaire, arguant qu'elle a permis de réduire à 3 le nombre d'évacuations en 2017, toutes survenues à la porte de la chapelle où se concentre désormais le gros des exilés. La réalité statistique est tout autre. Avec un total de 91 évacuations et mises à l'abri, l'année 2017 bat tous les records, sauf qu'elles sont de petite envergure et éparpillées sur le nord-est parisien. De mémoire d'habitants du 18e arrondissement, on se souvient de 2017 comme l'année où les exilés se cachent, se terrent, souvent dans les lieux habituellement fréquentés par les SDF. L'épisode du 12 octobre de cette même année, pendant lequel la police lacère les tentes des exilés à la porte de la chapelle, que Médecins du Monde a documenté et dénoncé, illustre cette pression policière. Cet éparpillement n'est pas du seul fait des forces de l'ordre. Depuis des mois, les militants n'ont de cesse de dénoncer l'érection de barrières qu'ils qualifient d'anti-migrants dans l'espace public parisien. Chloé Gerber-Cahuzac.
L'espace public a beaucoup changé entre Jaurès et Stalingrad au fur et à mesure des évacuations, même à Austerlitz. À Austerlitz, après l'évacuation qui a eu lieu en septembre 2015, ils ont mis des pierres et des grilles pour empêcher les gens de se réinstaller. C'est la même logique qui a été mise en place sous le métro, la ligne 2 entre Jaurès et La Chapelle.
La promenade urbaine.
Alors ça commence toujours par d'abord en effet les grilles, enfin des choses LED avec des chaînes et que parfois on fait tomber. Il y avait même eu aussi à un moment donné des grilles placées à l'endroit où sur la place de la Rotonde de la bataille de Stalingrad, on donnait des cours de français pour empêcher les gens en fait de donner les cours de français aussi. Donc il y avait plein de méthodes comme ça. Et puis ensuite, pour transformer cette forme, je dirais, LED et agressive, la mairie construit un projet qui va être un projet, soi-disant, pour le bien-être de la population. Donc elle transforme ce qui était au départ quelque chose de l'ordre de la répression et du rejet en quelque chose qui va être verdoyant, accueillant et surtout participatif et où tous les citoyens vont se sentir à l'aise. Donc des jardins, des choses alternatives, des lieux ouverts à des associations, mais en tout cas pas des lieux où peuvent être des gens qui sont en désespérance.
Plusieurs de ces lieux sont mis en œuvre, gérés et animés par Emmaüs Solidarité. Son PDG, Bruno Morel, est aussi un des animateurs avec la Fondation Abbé Pierre de la cérémonie dite des Pics d'Or.
C'est en fait, à partir d'une plateforme, dénoncer des mesures anti-migrants, anti-SDF. L'année dernière, on a remis ces Pics d'Or qui ont eu quand même certains avantages. Notamment, je pense à une grande banque parisienne qui a été promue et du coup qui est intervenu tout de suite pour retirer son matériel anti-SDF. Mais on a vu des églises mettre des systèmes anti-installation. Mais rappelez-vous, hein, moi il y a quelques années, il y avait une commune qui avait inventé un produit répulsif odorant pour les personnes à la rue. Donc voilà ce que fait la Fondation Abbé Pierre, est assez formidable dans cette campagne qui s'appelle Soyons humains, qui permet à la fois de rendre tous les Français acteurs et vigilants par rapport au fait que des personnes n'ont plus le droit même de s'installer dans les cœurs de ville. On voit bien qu'il y a une espèce de relégation, et il faut surtout que la pauvreté soit plus sous notre regard. Vous savez, ici, vous êtes rue des Bourdonnais. Quand vous partirez, vous y regardez, je vous montrerai un porche en face où les copropriétaires avaient installé une douche anti-SDF pour que les gens ne puissent pas s'abriter quand il fait froid.
Est-ce que la mairie de Paris a déjà été nominée au Pic d'Or ?
À ma connaissance, non.
Est-ce que les rochers dits de La Chapelle ont été nominés au Pic d'Or ?
Je sais pas.
Le 10 février 2017, l'association Migrants Solidarité Wilson dénonce l'installation de rochers dits anti-migrants à la porte de La Chapelle. Information vite reprise par la presse nationale, puis internationale, dans le Washington Post notamment. La mairie de Paris a beau invoquer les travaux du tramway, l'image de la capitale, qui est par ailleurs membre depuis septembre 2015 d'un réseau de villes-refuges, est largement écornée. L'heure est alors à la multiplication des occupations dites positives de l'espace public, parfois au détriment de la population riveraine. Ici, une ferme urbaine à l'accès limité, là où se retrouvaient les mineurs marocains. Là, un jardin d'insertion, ouvert quelques heures par semaine, en lieu et place d'un ancien campement d'exilés.
C'est toute la difficulté, et franchement, je trouve que le maire du 18e a eu beaucoup de courage dans cette affaire, parce qu'il avait à la fois à traiter une arrivée qui se concentrait sur les 18e et à traiter une interrogation locale avec effectivement, le terme est pas le bon, hein, des désagréments, enfin un truc plutôt compliqué pour l'environnement. Mais pendant ce temps-là, on ouvrait Coustou, qui est un centre d'hébergement pour migrants dans le 18e, Place Blanche. Pendant ce temps-là, on ouvrait Jean Carré. Pendant ce temps-là, il me semble que la ville de Paris, tout public confondu, représente sur l'Île-de-France 30% de la capacité des places d'hébergement et ne représente pas 30% de la population francilienne.
Donc, en l'occurrence, 23 000 places dans Paris intramuros.
Donc c'est quand même un effort considérable. Et c'est vrai qu'on est dans cette espèce de truc extrêmement compliqué. Mais en fait, la réponse, j'ai l'impression de tourner en rond. La réponse, elle est bien dans la création d'un dispositif de premier accueil.
Allez, t'as mangé tout à l'heure, c'est bon. Allez.
Ça va ? Aïe. Ça va ? Merci. Ampou, s'il vous plaît. Al-Khalil, Ampou.
Al-Khalil, mashallah.
Tamam,
hello.
Tamam,
hello. Une femme, regarde, il mange direct. Si je dis ouvre la bouche, il ouvre, mange.
Le dernier campement d'importance situé au cœur de Paris est évacué du canal Saint-Martin le 4 juin 2018. Depuis cette date et jusqu'à hier, 28 novembre, plus de 13 800 personnes ont été évacuées, essentiellement à proximité du périphérique, entre les portes de la Chapelle et de la Villette, là où on a laissé vacants, volontairement ou non, les derniers espaces pour y installer des tentes. Tous les mardis soirs et jeudis matins, le collectif Solidarité Migrants Wilson organise une distribution de repas chauds à la porte d'Aubervilliers.
On fait le repas chaque mardi pour 600 personnes. On fait tout, le riz, les pâtes, avec la viande, légumes. Et on a gâté quand même. On fait des bons repas, ils mangent bien, ils sont contents. Voilà, ça y est.
C'est la grande cuisinière, c'est elle qui prépare les repas chauds avec de la viande, des légumes et tout ça. Moi, c'est vrai que je suis là depuis, je sais pas, 6-8 mois. J'aide à la distribution, et parler avec les migrants, les petits sourires. Moi, j'aime bien blaguer. Ils nous prennent pour leur maman. Et voilà.
Franchement, moi, j'ai marqué. Ils ont besoin, nous, qu'on est là pour eux. Et puis, ça fait quelque chose quand même pour eux.
Pourquoi vous faites ça ?
Pourquoi on fait ça ? Imaginez-vous que vous êtes comme eux. C'est quelqu'un qui t'amène manger. T'as rien. T'as pas d'argent, t'as pas de famille, t'as pas de maison, y a rien. Y a rien. Alors, faut penser quand même, les gens qui ont rien. Oui ou non ? Vous êtes d'accord ou pas ? Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai fait avec amour, bon cœur.
Ça se voit.
Je te jure, pour là. Ça va? Ouais. Tu veux encore un peu ou c'est bon? C'est bon? Encore? Encore. Ouais. Je connais les gens qui vont plus. Encore Allez,
ça va?
Oui, ça va,
Afghanistan? Yeah, I'm from Afghanistan.
Where from? I'm from Afghanistan.
Where? Kabul?
No, Ghazni.
Ghazni?
Yeah.
Afghanistan?
Yes.
Where from?
Ghazni.
Ghazni? Afghanistan?
Yeah, France.
Okay. Afghanistan?
Afghanistan.
Where?
Kabul.
Kabul. Okay.
Beaucoup de ces Afghans qui font la queue dans le froid pour se nourrir sont des déboutés de l'asile qui ont fui l'Allemagne ou la Scandinavie pour éviter le renvoi dans leur pays. Beaucoup d'autres sont des Dublinés, c'est-à-dire des personnes qui doivent demander l'asile dans le premier pays européen qui a pris leurs empreintes. Ces derniers doivent attendre 6 à 18 mois avant de pouvoir demander l'asile dans le pays de leur choix. On estime à plus de 200 000 le nombre de ces personnes en errance sur le territoire européen. Parce que sans droit et sans assistance. C'est le cas de Sardar, un jeune citoyen afghan qui campe à la porte d'Aubervilliers.
I'm here in French from 3-4 months.
Ça fait 3 ou 4 mois que je suis arrivé en France. J'ai été dubliné en Autriche et donc j'attends la fin de ma procédure Dublin.
Combien de temps devez-vous attendre la fin de la procédure Dublin pour vous?
It depends on the French government mental.
Ça dépend du gouvernement français qui peut seul décider de la durée de ma procédure Dublin.
So maybe 6 months.
Peut-être 6 mois ou un an, je ne sais pas.
Or 1 year and a half ou un an et demi.
Or I don't know.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer.
How much it will be.
Donc ça veut dire que vous allez encore dormir dehors pour 2 ou 3 mois encore.
I will find some my friends home.
Oui, je vais essayer de me faire héberger par des amis ici à Paris ou alors ailleurs.
So, there is no dangerous in camp.
Il n'y a pas de danger d'être expulsé quand on vit chez quelqu'un ou dans un camp.
Sur les lieux de campement, on voit de plus en plus de personnes.
Louis Barda, coordinateur général de Médecins du Monde à Paris.
Qui savent que leur situation administrative est compliquée et qui vont être très défiants par rapport à une prise en charge de l'État français en se disant « Est-ce que je risque d'être envoyé dans mon pays ou ailleurs en Europe ?» Ça, on l'a observé à l'époque du campement du Millénaire. Donc en 2018, c'est un campement où les chiffres faisaient état d'environ 1600 personnes et le jour de l'évacuation, il n'y en avait que 1000. Signe que 600 personnes étaient parties dans la nuit, avec très certainement cette inquiétude de se dire « Est-ce que demain je vais rentrer dans un dispositif piégeux ou est-ce qu'on va vraiment me protéger ?» Et l'histoire leur donne plutôt raison, c'est qu'on se rend compte que ces dispositifs aujourd'hui sont des dispositifs de tri qui remettent à la rue et qui fragilisent encore des personnes qui, il faut toujours le rappeler, ont fui une zone de conflit, de guerre, ont eu un parcours migratoire chaotique, on connaît la Libye, la Méditerranée, mais il y a bien d'autres lieux où des exactions sont fréquentes, arrivent en France et en Europe pour demander une protection, et se retrouvent quasi criminalisés dans la rue avec un harcèlement policier et une logique de contrôle, de tri et de remise à la rue systématique.
C'est-à-dire que lorsque le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris, monsieur Lallemand, disent « ce sera le dernier camp », c'est assez ambitieux de dire ça dans la mesure où beaucoup de personnes ne montent plus dans les bus, comme ce fut le cas également à la Chapelle début novembre.
Oui, c'est plutôt hypocrite qu'ambitieux, parce qu'ils savent très bien que les campements vont continuer de se reconstituer. Ils vont juste faire ensemble que ce ne soit pas dans Paris, que ce soit dans des zones encore plus invisibles et du coup encore plus dangereuses pour les personnes. Mais on sait très bien que l'évacuation du 7 novembre le montre, les personnes vont retourner à la rue, donc fatalement elles vont devoir se regrouper à des endroits et reconstituer des campements. Ce qu'on avait dénoncé à l'époque quand c'était Emmanuel Macron qui l'avait annoncé pour fin 2017 de dire « il n'y aura plus personne à la rue », pour nous il y avait deux façons de le faire, ou un accueil digne et inconditionnel de l'ensemble de personnes pour les prendre en charge, ou un harcèlement pour les rendre invisibles à la rue et de fait ne plus les constater dans l'espace public. Et c'est vraiment la stratégie qui est retenue aujourd'hui.
Pour demain,
Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile.
Il est évident que compte tenu des projets qu'il y a, y compris d'aménagement dans le nord-est parisien, en prévision des Jeux Olympiques, ce nord-est parisien va être transformé. Les gens, où iront-ils ? Il est probable qu'ils iront un peu plus loin, que les précaires iront un peu plus loin, et que cette précarité, elle va s'installer dans un département qui est déjà fortement impacté par tensions diverses et variées, et qui n'est pas marqué, et c'est pas un territoire, c'est un territoire qui est très innovant, parce qu'il faut pas le caricaturer non plus, le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui comporte énormément de talents, mais c'est aussi un territoire qui est marqué par une énorme précarité et par une diversité des populations qui est compliquée. Grosso modo, il n'y a pas de mixité. Donc il est probable qu'effectivement, ces gens vont être repoussés un peu plus loin et que ça sera encore un peu plus difficile de mobiliser les gens sur ces situations.
Pour l'heure, le camp de la porte d'Aubervilliers est toujours là. Ce n'est plus avant Noël, comme l'avaient annoncé les autorités, mais désormais courant janvier que le millier d'exilés qui l'occupent toujours devrait être mis à l'abri. Après des années de relégation, les exilés ont été contraints de côtoyer des populations elles-mêmes reléguées. Les consommateurs de crack notamment, qui se sont agrégés au campement de la Porte de la Chapelle et de la Porte d'Aubervilliers. Les riverains s'en plaignent et ont manifesté tous les jours à 19h depuis le 18 novembre en bloquant le tramway, jusqu'à obtenir d'être enfin reçu hier par la mairie du 19e.
On est là, clairement, pour protester des conditions de vie dans le quartier. À savoir, on est dans une situation où on est nous-mêmes des personnes qui sont discriminées, on est nous-mêmes confrontés à cette promiscuité avec des personnes qui sont exilées, qu'on ne prend pas en charge, on est nous-mêmes confrontés à des personnes... On demande un accueil digne pour ces personnes-là. Voilà. Et ce qu'on souhaite également, c'est que les consommateurs qui sont devenus nos voisins, qu'il y ait une prise en charge pour eux dans des structures adaptées et que ce ne soit pas concentré uniquement dans le nord-est parisien. Et voilà, c'est une discrimination avec les discriminés.
Précisons que les personnes représentant l'État sollicitées dans le cadre de ce reportage n'ont pas souhaité répondre. Exilé à Paris, 4 ans de crise de l'accueil, un reportage de Raphaël Kraft avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de grand reportage, Dominique Versini, maire adjointe de Paris, chargée des solidarités, de la lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés et de la protection de l'enfance. Dominique Versini, est-ce qu'il est vrai que l'on cherche à reléguer les exilés à l'extérieur de la capitale ?
Écoutez, en ce qui me concerne, je peux vous dire que depuis mi-2015, lorsque les premiers migrants réfugiés sont arrivés, nous n'avons eu de cesse que de discuter avec l'État, dont c'est la responsabilité première, de mettre à l'abri toutes ces personnes, d'examiner leurs demandes d'asile, d'obtenir que toutes les personnes soient mises à l'abri de façon inconditionnelle et que leur situation soit examinée, de demander également que la situation des Dublinés soit examinée, car nous considérons qu'ils sont des demandeurs d'asile qui ont juste mis leur empreinte dans un autre pays. Et nous avons aussi... mener beaucoup de bras de fer avec l'État, il faut bien le dire, hein, sous toutes ces formes gouvernementales de 2015 à aujourd'hui. Donc on a eu différents présidents et gouvernements différents. À chaque fois, effectivement, c'était évident que l'État, mais sans doute que l'État a d'autres points de vue que des élus locaux, mais en tout cas que l'État était plutôt dans une posture défensive pour éviter de favoriser ce qu'ils appellent l'appel d'air. Mais ce qui s'appelle comme ça dans les autres pays, je reviens d'un colloque sur les réfugiés à Berlin, donc j'ai pu constater que c'était comme ça partout en Europe. Face à des élus qui demandions une mise à l'abri dans de bonnes conditions, que de guerre lasse, nous avons fini par proposer nous-mêmes, en la personnification du centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle, où il y avait cette bulle jaune, sachant que si on a mis le centre de la Porte de la Chapelle là, c'est parce que c'était le seul lieu où on avait un terrain disponible. Ça demande une surface extrêmement importante, bref, il y avait une ancienne halle, ça tombait bien, c'était à nous pour un an et demi avant que soit construit le campus Condorcet. Donc si on avait eu un autre endroit, on l'aurait fait évidemment. On a aussi mis à disposition un terrain qu'on avait mais à Ivry, qui est devenu un deuxième centre humanitaire pour les familles avec enfants. Et je peux vous dire que pour avoir été moi-même, lorsque j'ai vu cette catastrophe dans les rues de Paris, à Berlin, à Munich, à Sarrebruck et à Grande-Synthe, pour comprendre comment les autres s'organisaient et avoir compris surtout que, et comme je reviens encore de Berlin, j'en suis confortée, que les Allemands, ça leur est jamais arrivé de se retrouver avec des campements de rue qui se sont tout de suite organisés, qu'ils ont accueilli 1 million de gens. Et que en France, on n'a pas réussi parce que je pense qu'on n'a pas voulu vraiment. Et l'ouverture du centre de premier accueil humanitaire, il avait, en tout cas, c'était un concept de dignité, d'accueil inconditionnel, de permettre aux gens pendant quelques jours d'être informés. Évidemment, il prenait 400 personnes à la fois, sachant qu'au fur et à mesure, les gens devaient être orientés vers des centres d'accueil de demande d'asile. Évidemment, il n'a jamais pu prendre l'ensemble des personnes, mais ça a permis une accalmie relative. C'est vrai qu'il y a eu des petites opérations de mise à l'abri pendant ce temps, mais on n'a plus été dans ces immenses campements. Mais on l'a obtenu par un bras de fer dont vous ne pouvez pas imaginer la violence, dont vous ne pouvez pas imaginer comment nous, ville de Paris, nous avions été traités et considérés comme des gens qui voulaient inviter le monde entier à venir en France et à Paris, et comment ça continue encore aujourd'hui, où nous sommes toujours dans des bras de fer que nous essayons de faire de la façon la plus civilisée et courtoise possible, mais qui sont d'une violence incroyable.
Sur ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, vous avez entendu Pierre-Henri. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse qui disait que pour que ça fonctionne, il aurait fallu qu'il y en ait d'autres ailleurs?
Oui, absolument. D'ailleurs, on ne s'est pas contenté de faire ça, mais on a proposé un projet de loi au gouvernement, le précédent, de la précédente présidence, En disant qu'il fallait un accueil, puisqu'on était face à une crise d'accueil, que la France ne savait pas accueillir, et qu'il fallait des centres un peu sur le modèle de celui de la Porte de la Chapelle ou d'autres, le long des chemins migratoires. Voilà, ça c'était ça, notre demande. On la demande à chaque fois, je peux dire qu'on l'a redemandé il n'y a pas longtemps à Christophe Castaner, et on l'a demandé voilà, à toutes les hautes autorités qu'on a rencontrées, et on est d'accord donc avec ce que dit Pierre-Henri, qui est... une solution de bon sens et d'organisation, puisque de toute façon, les migrants vont continuer à arriver.
Raphaël Kraft.
L'appartenance, Dominique Versiné, de la ville de Paris à ce réseau de villes-refuges, qui a été incarné notamment par celle de Lampedusa, ça s'inscrit dans une logique municipaliste, un courant municipaliste qui commence à avoir de l'importance, pas seulement en Europe avec Lampedusa, avec le maire de Leo Luca Orlando à Palerme, mais également aux États-Unis, où des villes se mobilisent pour protéger littéralement, cacher des personnes qui sont menacées d'expulsion. À observer l'attitude de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, on a l'impression d'une tiédeur par rapport aux positions qui sont prises. Je pense notamment au maire de Palerme, Leo Luca Orlando, qui est de toutes les manifs, qui a personne dans ses rues, lui. Bon, il est appuyé par un réseau catholique qui est très important, c'est vrai, mais on a le sentiment que Anne Hidalgo communique davantage qu'elle n'agit sur cette question comparée aux autres maires de par le monde.
Alors, je partage pas du tout votre point de vue, évidemment. Je connais bien Leo Luca Orlando, et vous voyez la taille de Palerme et la taille de Paris. Je connais son énergie fantastique et nous l'avons reçu beaucoup et on a beaucoup travaillé, réfléchi avec lui. Et lui,
Palerme,
il était...
c'est environ 600 000 habitants.
Et c'est une arrivée autrement plus considérable de réfugiés depuis la Libye que
tout
Paris.
Tout à fait. On n'est pas situé à Palerme, on est situé à Paris. Leo Luca Orlando, lui, il a réagi à sa façon, avec son énergie et son courage face à Salvini aussi, face à qui il menait un combat personnel est très très fort. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Anne Hidalgo réagit avec tiédeur. En tout cas, je pense pas que ce soit le point de vue de tous les ministres de l'Intérieur qui se soient succédés, ni de tous les présidents de la République qui soient succédés, parce que un, elle a décidé de créer un centre d'accueil humanitaire avec ou sans l'État, et moi j'étais dans son bureau quand je le lui ai proposé, quand elle l'a décidé, et qu'elle avait décidé qu'on le ferait avec ou sans eux et qu'on le financerait avec ou sans eux. On a créé un deuxième centre humanitaire. Les équipes de France Terre d'Asile, on les finance. Quand vous dites qu'il y a des gens qui distribuent des petits déjeuners, des repas, des déjeuners, comment vous croyez que ça se fait? Avec des subventions de la ville. On a créé une maison des réfugiés. On a on a mis en place un plan de mobilisation avec une pensée pour essayer d'accueillir le plus possible.
Alors j'ai une question sur cette maison des réfugiés, parce qu'elle est provisoirement installée dans le 14e, mais il est question qu'elle soit déplacée dans le 19e, là où il y a aujourd'hui, si j'ai bien compris, un centre d'hébergement. Est-ce que ça veut dire que ça va remplacer, prendre la place de ce centre d'hébergement ?
Alors, la maison des réfugiés, donc, qui est le lieu ressource où peuvent venir toute personne réfugiée au sens arrivée en France et venant chercher refuge, pas que les réfugiés statutaires bien sûr. Elle a toujours été prévue pour être installée à la place du lycée Jean Carré, qui était un lieu très important, donc qui a été occupé pendant longtemps, qui a fait l'objet d'une très grande opération de mise à l'abri, etc. Ce lieu n'est pas disponible pour l'instant car il y a une opération d'urbanisme avec la médiathèque, etc. Et donc, en attendant, le lycée Jean Carré, une fois qu'il a été, donc qu'il a fait l'objet d'une évacuation, il est devenu un centre d'hébergement confié à Emmaüs. Pour créer la maison des réfugiés dont Emmaüs et l'association Singa ont remporté l'appel à projet, nous avons, plutôt que d'attendre 2 ans, nous avons un bâtiment que nous avions acheté qui est Boulevard Jourdan, qui est à la fois un centre d'hébergement confié à Emmaüs et au rez-de-chaussée la maison des réfugiés. Et donc lorsque la version finale de Jean Carré, médiathèque, etc. sera, voilà, donc la maison des réfugiés, elle sera dans sa destination finale, là, par ce symbole de ce qu'a été Jean Carré, qui a été une longue occupation avec beaucoup de souffrance pour les personnes, il faut le dire, et pour lesquelles on a mis des mois et des mois à arriver à convaincre l'État de le faire.
Mais Dominique Versini, je voudrais quand même revenir sur ce municipalisme. Je pense à la réaction de Carola Rackete qui a refusé la médaille d'honneur de la ville de Paris. C'est peut-être un signal faible, mais c'est quand même un signal. Et c'est assez déplorable pour l'image de Paris qu'une figure considérée comme un certain nombre de personnes en Europe comme héroïque par son attitude en Méditerranée refuse les honneurs de la ville.
Oui, il arrive très souvent qu'à Paris, on donne la citoyenneté d'honneur à des personnes, soit parce qu'elles sont en grande difficulté.
À toute personne à Palerme, d'ailleurs.
Pardon ?
La citoyenneté, pas seulement d'honneur, est donnée à tous les réfugiés à Palerme.
Mais très bien, mais c'est parfait. On fait pas un concours de citoyenneté.
Bien sûr.
Alors, à Paris, il y a une carte citoyenne à laquelle tout le monde a droit, y compris les réfugiés et les migrants, bien évidemment. Alors, pour revenir à Carola Rackete, qui est une jeune femme exceptionnelle, qui a fait quelque chose d'héroïque et qu'on a tous admiré, dans la mesure où il arrive que l'on décerne la citoyenneté d'honneur de Paris pour des gens dont on veut soutenir des combats particuliers qui nous paraissent exceptionnels, ça lui a été proposé. Elle a considéré que ça l'intéressait pas, que je pense qu'elle fait pas ça pour recevoir un honneur, et c'est tout à son honneur. Nous, ça nous faisait plaisir de le faire. Je pense pas que ça abîme l'image de Paris, parce que je peux vous dire que l'image de Paris, en ce qui concerne ce que nous avons fait et ce que nous faisons, elle ne se résume pas aux quelques personnes que vous avez interviewées et qui vont se dire qu'on ne sait pas les choses tout à fait aussi bien qu'il le faudrait. Elle se mesure aussi, je trouve, à la façon dont nos autorités, par exemple, considèrent que nous empêchons l'appel d'air, mais on considère que c'est un honneur que d'accueillir les réfugiés. On le fait le mieux possible. On a mobilisé énormément de budget de Paris, alors qu'on n'est pas dans nos compétences.
Je reviens à vous, Dominique Versini.
Pardon, mais je voudrais quand même terminer. Je peux pas laisser quand même dire des choses comme ça sur Paris. Je pense que Paris fait, et en plus c'est fait d'une façon à l'unanimité du Conseil de Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clivage politique sur ça. Après, qu'il y ait des gens sur le terrain qui y sont tous les jours et qui distribuent des petits-déj et qui font des choses que je trouve formidables, qui hébergent chez eux, qui font aussi plein de choses, qui trouvent qu'on le fasse jamais assez, eh ben c'est normal, peut-être qu'on fait pas assez. En tout cas, je pense qu'on fait beaucoup plus que ce que l'État voudrait qu'on fasse, et qu'on est quand même vraiment courageux et courageuse dans le combat qu'on mène, parce que franchement, si on était intéressé que par notre image, etc., on serait pas dans ces postures.
Moi, Dominique je trouve Versini, que pardon.
On est vraiment courageux et que
il
on
n'a
pas beaucoup
une
de
minute.
Leçons à recevoir.
Dans voilà. vos prérogatives, il y a la protection de l'enfance. Je pense donc aux mineurs isolés. Il y a des associations actuellement qui appellent à l'aide parce qu'elles tentent d'héberger des jeunes qui attendent pendant parfois des mois leur convocation devant un juge qui va dire si oui ou non ils sont véritablement mineurs et seront pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
À Paris, 4500 enfants nous sont confiés. Parmi eux, 40% sont des mineurs non accompagnés. Nous les traitons comme les autres enfants et nous les accompagnons jusqu'à leurs 21 ans. Nous sommes l'un des trois seuls départements de France qui refuse d'envoyer les jeunes mineurs qui se présentent à la préfecture de police parce que nous considérons que c'est pas comme ça qu'on accueille un mineur. Donc après, il y a effectivement des jeunes qui ne sont pas évalués mineurs et qui sont évalués majeurs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pris en charge.
Quand il y a un recours, ils ont droit à un recours.
Ils ont droit à un recours.
Mais le temps du recours, ils sont à la rue.
Ils ont droit à un recours comme jeunes majeurs, mais ils ne sont pas des mineurs qui sont abandonnés. Et je peux vous dire que récemment...
Quand ils sont reconnus comme majeurs
récemment,
après, c'est qu'ils étaient bien mineurs.
Pardon. Pas du tout. Récemment, Jacques Toubon, le défenseur des droits, a dit très récemment, il y a quelques semaines, que après nous avoir beaucoup, beaucoup enquêté, fait de recommandations, il était en parfait accord avec la politique que Paris menait concernant les mineurs non accompagnés.
Merci.
Je crois
Dominique
qu'on ne peut pas attendre plus que du défenseur des droits au niveau analyse de la situation.
Exilé à Paris, 4 ans de crise de l'accueil. Le grand reportage de cette semaine était signé Raphaël Kraft, réalisation Annie Brou avec Audrey Guélil à la technique, sans oublier l'aide précieuse de nos documentalistes. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.